sais qu'il y en avait quelques-uns et je les en remercie. Qui étaient impatients de savoir quel livre nous allions étudier à la suite du livre des Nombres. Et nous essayons d'alterner entre l'Ancien et le Nouveau Testament. De la sorte que si vous venez régulièrement le dimanche et le mercredi, vous pouvez ainsi étudier toute la Bible, pas seulement la lire, mais l'étudier verset par verset, et cela vous demandera près de 20 à 25 ans. Si vous venez toutes les fois, sinon ça peut doubler si vous venez qu'une fois par semaine, 50 ans. En fait, dans un futur que j'espère pas trop lointain, j'aimerais bien démarrer une autre étude de toute la Bible à une cadence plus rapide, plus soutenue, en étudiant plusieurs chapitres à la fois, pour arriver à couvrir toute la Bible en 5 ans. Et j'imagine qu'on pourrait faire ça le dimanche soir, quand nous aurons des locaux pour l'église. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez prier pour ça. Donc, sans faire durer le suspense plus longtemps, nous allons étudier à partir de maintenant la première épître de Paul aux Corinthiens. Et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur que nous avons la liberté dans notre pays de nous réunir pour l'étudier et l'approfondir. Merci Seigneur que ce ne sont pas seulement des théories sur un livre. Mais ta parole est la vérité. Si nous voulons vivre en réalité, nous devons la connaître, Seigneur, la mettre dans notre cœur et la vivre, l'appliquer. Seigneur, nous te demandons à l'entrée de cette nouvelle étude de la bénir, que tu m'aides, Seigneur, à en exprimer toute la richesse. Et plus encore, Seigneur, que ton Esprit Saint l'utilise pour toucher les cœurs. Pour nous reprendre, nous enseigner, nous corriger. Pour nous équiper pour toute œuvre bonne. Seigneur, bénis l'annonce de ta parole. Remplis-nous d'Esprit Saint, Seigneur, pour l'enseigner et la recevoir. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand je vous dis Corinthe, peut-être que vous pensez aux raisins. C'est une ville qui existe encore en Grèce moderne. Mais c'est surtout dans la Bible l'église, la ville où Paul avait fondé une église lors de son deuxième voyage missionnaire. Non, son deuxième voyage missionnaire.
Oh, it was the first city on his second missionary trip?
Non, c'est pas grave. Il avait fondé l'église là lors de son deuxième voyage missionnaire. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Nancy et à ceux qui font le travail d'interprète pendant le sermon. C'est pas toujours facile.
Claire wants to thank the lesson planner
Et on devrait prier plus souvent pour eux aussi, et pour elles. Les chrétiens de Corinthe avaient demandé à Paul de venir lorsqu'il était à Éphèse, après avoir fondé cette première église, On sait qu'il leur avait envoyé une lettre qu'on n'a pas en notre possession aujourd'hui. Et il leur avait répondu, donc dans cette lettre que nous n'avons pas en notre possession, ils avaient renvoyé en envoyant une délégation. On va voir à la fin de 1 Corinthiens, ils parlent de Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus, trois chrétiens de Corinthe. Et en fait, Paul avait eu ainsi vent de graves problèmes dans l'église de Corinthe. Plus tard, Paul, sa réponse est cette première lettre que nous allons étudier. Probablement écrite en l'an 55 de notre ère. Et puis plus tard, il va leur envoyer une deuxième lettre, c'est la deuxième lettre aux Corinthiens. Il aura l'occasion de repasser chez eux plus tard. Mais j'aimerais que nous nous replacions dans Acte 18 pour voir un peu la création, la fondation de l'Église. Acte 18. C'est page 155 dans la Bible à la colombe. Verset 1 du chapitre 18. Après le voyage de Paul à Athènes, nous voyons que après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe.
We see in verse 1 that Pierre left, Paul left Athens and went to Corinth.
Si vous avez une carte des voyages missionnaires de Paul à la fin de votre Bible, il y en a une dans la Bible à la colombe. Vous pouvez voir la ville de Corinthe au sud de la Grèce. Athènes était la capitale culturelle.
Athens was the cultural capital.
Mais Corinthe, qui était située à 60 km à l'ouest, elle était la capitale économique.
But Corinth, 60 km to the west, was the commercial capital.
Elle comptait près de 200 000 personnes.
There were probably close to
400 000, pardon.
400,000 people.
Presque la population de Nice.
Almost the population of Nice.
C'était la quatrième ville de l'Empire romain au point de vue population après Rome, Alexandrie et Antioche.
It was the fourth largest city in the Roman Empire after Antioch.
Rome, Alexandrie.
Rome and Alexandria.
Et c'était une capitale économique à cause de sa position géographique. Voyez qu'elle se trouvait juste près de la petite langue de terre qui sépare le sud de la Grèce du centre de la Grèce. C'est ce qu'on appelle un isthme. Et le trafic commercial entre la Grèce et la mer Égée et Rome et l'Adriatique se faisait par cette ville de Corinthe.
And the commerce between the area of the Aegean Sea and the Adriatic Sea and Rome was through this small area here.
Faire le détour par le sud de la Grèce rallongeait beaucoup les voyages.
To go further south around the very tip of Greece would have really extended the journey.
Et donc il y avait un passage qui avait été aménagé pour les petits vaisseaux de commerce.
And so a passage had been made for the smaller commercial boats.
Une route avec des rondins en bois, et on préférait traîner les chariots sur ces voies de bois plutôt que de prendre le temps de faire le tour de la Grèce.
They made a small route with logs, and they would pull the boats over these logs.
Pour les plus gros bateaux, on préférait aussi décharger, transporter et recharger sur un autre gros bateau plutôt que de faire le tour de la Grèce du
and
sud.
For the larger boats, they chose to take everything off and then load up the boats on the other side rather than go down around the southern point.
Aujourd'hui, après le percement du canal de Suez, la même équipe a construit un canal.
And today, since the construction of the Suez Canal, the same
crew.
Company built another canal here.
Mais à l'époque, le commerce passait aussi par Corinthe.
But in their day, all the commerce came through Corinth.
C'est une ville qui avait été détruite et rebâtie par Jules César une cinquantaine d'années avant Jésus-Christ.
It was a city that had been completely destroyed and rebuilt by Julius Caesar about 50 years before Jesus Christ.
Et donc c'était une belle ville, c'était une ville riche.
So it was a beautiful city and a very wealthy one.
Il y avait toutes sortes de commerces, du commerce honnête.
There were all types of commerce, honest.
Mais aussi des trafics.
But also traffic.
Il y avait beaucoup de marins, de commerçants.
There were many sailors and businessmen.
Il y avait des soldats romains.
There were Roman soldiers.
Des trafiquants.
Trafiquants, c'est mafia.
Avant la lettre. Il y avait des prêtres et des prêtresses païennes.
There were priests
païens et païennes.
And pagan priestesses.
Il y avait même à l'époque, il y avait une expression, on disait corinthianiser. Et dans l'Empire romain, on savait que corinthianiser, ça voulait dire se livrer à une vie de débauche. C'était vivre dans le vice.
To live in vice.
Le programme à la télé, c'était pas Miami Vice, le vice à Miami.
The TV program wasn't Miami Vice.
C'était le vice à Corinthe.
It was vice in Corinth.
Pour les pièces de théâtre de l'époque romaine,
and for theater during the Roman Empire,
le Corinthien, c'était celui qui était toujours ivre.
The Corinthian was always the one who was drunk.
La ville était connue pour son grand temple à Vénus ou à Aphrodite en grec.
And the city was known for its great temple to Aphrodite,
la déesse de l'amour.
The goddess of love.
Et il y avait toute une compagnie de prostituées sacrées qui aidaient à rendre un culte à Aphrodite.
And there was a whole company of sacred prostitutes who did worship to the goddess Aphrodite.
Et si vous voulez savoir un peu à quoi ressemblait Corinthe, vous pouvez lire, on ne va pas le faire ici, mais Romains 1, 18 à 32.
And if you want to know more about what Corinth was like, you could read Romans 1, 18
Paul, to 22. Paul y décrit les péchés du païen, de l'homme sans Dieu.
Paul's describing sin for the man without God.
Et il le fait dans la ville de Corinthe même. C'est là qu'il écrit sa lettre, en voyant toute cette corruption au grand jour.
And he's writing this letter to Romans in the town of Corinth as he's looking out over all the sinfulness.
Paul est arrivé seul dans cette ville.
Paul came alone to this city.
Réputé pour cette immoralité.
So well known for its immorality.
Il est découragé au point de ne plus vouloir prêcher.
And he became so discouraged, he didn't want to teach anymore.
Dans 1 Corinthiens 2, 3, il dit qu'il était auprès de deux, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement.
In 1 Corinthians 2, verse 3, it says he was in a state of weakness and fear and much trembling.
Et en fait, il s'est encouragé de trois façons.
But he encouraged himself in three ways.
D'abord, il a trouvé des nouveaux amis, Aquila et Priscille. Et Priscille, pardon.
He found some new friends, Aquila and Priscilla,
qui ont aussi travaillé le cuir pour fabriquer des tentes.
Who worked with leather to fabricate tents.
Plus tard, Silas et Timothée, qu'il avait laissé derrière lui, vont venir le rejoindre de Bérée.
Silas and Timothy, who he left behind him, and then they later joined him in Berea.
From Berea. Et puis il voit aussi le fruit de son ministère.
And they saw the fruit of his ministry.
ça s'encourage toujours le voir du fruit d'un ministère. Nous avons vu en étudiant le livre des Actes que Paul commençait toujours par aller parler dans les, prêcher dans les synagogues. Et à Corinthe, le chef de la synagogue, Crispus, s'était converti. Et nous savons qu'il était aussi très découragé, très à plat,
and we know that he too was discouraged,
qu'il avait peur,
that he was afraid,
parce que dans le même chapitre 18, au verset 9,
because in the same chapter, in Acts 18, verse 9,
le Seigneur lui parle.
The Lord speaks to him.
Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne t'étais pas. » Car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville.
The Lord says to Paul in a dream, do not be afraid any longer, but go on speaking and do not be silent, for I am with you and no man will attack you in order to harm you, for I have many people in this city.
Quel encouragement pour Paul.
How encouraging for Paul.
On peut imaginer qu'après cette vision, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il disait peut-être que cette personne fait partie du peuple. Et je crois que Paul et Jésus, Dieu s'adresse aussi aux Niçois.
And we can imagine that Jesus is also speaking about the Nice people.
En nous disant, j'ai un peuple, j'ai un grand peuple dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et peut-être que nous sommes aussi découragés par le manque de fruits des ministères chrétiens ici.
Nous
sommes peut-être 1500 chrétiens évangéliques.
We might be about 1500
dans la région,
Christians in the region,
dans une ville qui en compte près de 500 000 avec les banlieues.
In a city that's probably close to 500,000 with its suburbs.
Mais nous aussi, lorsque nous rencontrons les gens, nous devons penser peut-être que cette personne fait partie du peuple de Dieu. Paul resta à Corinthe un an et demi.
Paul stayed in Corinth for a year and a half.
Et c'est ainsi que l'église fut implantée.
And this was how the church was planted.
Et on peut imaginer qu'il est très attristé des problèmes qui lui ont été rapportés dans l'église de Corinthe.
And we can imagine that he was very saddened by the problems that came up in the church in Corinth.
Il veut écrire pour corriger ces problèmes, ces désordres.
So he wants to write to correct these problems, this disorder.
Et on va voir qu'en fait, le grand thème de cette épître,
and we'll see that the great theme of this epistle,
c'est Jésus-Christ.
Is Jesus Christ.
Sa suprématie,
his supremacy,
sa seigneurie,
his lordship,
le fait qu'il ait la réponse à tout problème.
And the fact that he has an answer for every problem.
Et Paul va leur montrer qu'en fait ils ont perdu de vue l'essentiel.
And Paul is going to show them that they have lost sight of the essential.
Jésus-Christ.
Jesus Christ.
Crucifié et ressuscité.
He says crucified and resurrected.
Et ce qui est très frappant,
and what is really striking,
c'est de réaliser que 2000 ans plus tard,
later,
l'Église contemporaine a le même genre de problème.
Kind of problem.
Nous avons tendance à perdre de vue la centralité de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Il se trouve que nous abordons l'Épître aux Corinthiens.
And we find ourselves beginning the epistle to the Corinthians.
Parce que c'est le prochain livre après Romains que nous avons étudié le mercredi soir dans le Nouveau Testament.
Because it's the book that follows Romans, which we studied on a Wednesday night.
Mais je crois que c'est aussi un rendez-vous du Seigneur.
But I believe that it's also a rendezvous with the Lord.
La Bible, encore une fois, est d'une actualité, d'une pertinence fantastique.
Again, the Bible has a reality, a pertinence to our day.
Un auteur que j'aime bien, Warren Wiersbe, a dit que
an author that Pierre likes really well, Warren Wiersbe, has said,
aucune lettre dans le Nouveau Testament ne traite aussi justement des problèmes dans l'Église locale.
No letter in the New Testament so well treats the problems
in local church.
In local churches.
Et peut-être qu'aucune autre lettre du Nouveau Testament n'est aussi négligée aujourd'hui.
And no other letter in the New Testament is so neglected today.
Alors vous vous dites, mais pourtant on connaît des passages dans 1 Corinthiens. On connaît 1 Corinthiens 13,
we know 1 Corinthiens 13,
le grand chapitre de l'amour.
The great chapter on love.
On connaît 1 Corinthiens 12 et 14 qui parlent des dons de l'Esprit.
We know 1 Corinthiens 12 and 13 that talk about the gifts of the Spirit.
Mais c'est vrai que très souvent on perd de vue le sens de la lettre.
But often we lose sight of the true sense of the letter.
C'est une lettre de reproche, de correction.
It's an epistle of correction, reproach.
Et le plan de la lettre s'en ressent.
And the outline, the order of the letter.
Normalement, Paul aime bien commencer ses lettres par un discours théologique.
Normally, Paul begins his letters with a theological discourse,
où il expose des vérités.
Where he exposes truths.
Et ensuite, il passe à une application pratique de ces vérités. Mais ici, parce qu'il doit adresser ses problèmes, d'entrée de jeu, il va parler de ses problèmes et mélanger les conseils pratiques avec les révélations de doctrine tout au long de la lettre. Le plan est en fait très simple. Il y a d'abord des salutations, une introduction que nous allons étudier aujourd'hui, les 9 premiers versets. Puis ensuite les chapitres 1 à 11.
And then chapters 1 through 11.
C'est Jésus-Christ, remède à la carnalité.
It's Jesus Christ,
cure for carnality.
A cure for carnality.
Chapitre 12 à 16, le reste, c'est Jésus-Christ, source de toute spiritualité.
And then chapters 12 through 16, the rest of the letter is Jesus Christ, the source of
spirituality.
La carnalité,
the carnality, c'est vivre selon la chair, notre ancienne nature.
Is living by the flesh or according to our old nature.
C'est la vie sans Dieu.
It's a life without God.
C'est la vie dans l'impureté, dans le péché.
A life in impurity and sin.
Jésus-Christ est le remède.
And Jesus Christ is the remedy.
Jésus-Christ est la source de la spiritualité.
Jesus Christ is the source of spirituality.
On entend aujourd'hui parler beaucoup de spiritualité au pluriel.
Today we often hear the word spirituality in the plural.
Ça fait penser à l'encens.
It makes us think of incense,
à des choses bizarres, ésotériques, strange, originales souvent.
Strange, esoteric, original things.
Si c'est ancien, ça ne doit pas être intéressant.
If it's old, it's probably not interesting.
Ça, c'est le concept de l'homme de la rue.
That's the concept of the man on the street.
Mais la spiritualité, ça parle de connaître Dieu.
But spirituality speaks of knowing God.
Ça parle de vivre dans l'amour,
and it speaks of living in love,
de Dieu et des autres,
love of God and of others,
dans la sainteté.
And of living in holiness.
Les problèmes, nous allons les découvrir au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude.
And the problems we will discover as we progress in the study.
Mais juste un petit avant-goût.
But just a little
foretaste. Il y avait des divisions.
there was division.
Nous allons voir qu'il y avait au moins quatre groupes qui se livraient à une lutte d'influence.
We see that there are going to be four groups that have an influence.
Et ça, c'était au sein même de l'Église.
And this is in the heart of the church.
On va voir qu'il y avait l'orgueil intellectuel.
There was an intellectual pride.
L'apport de la philosophie du monde qui venait dans l'Église.
And the philosophy of the world that was brought into the church.
Il y avait des problèmes d'immoralité.
There were problems of immorality.
Paul parle même de problèmes tels qu'on ne les voit pas dans le monde.
And Paul even speaks of problems that we don't even see in the world.
Les gens s'adonnaient à l'alcoolisme.
People were given to alcoholism.
Ils étaient égoïstes.
They were self-centered.
Et ils justifiaient ce style de vie par la grâce de Dieu.
And justified their lifestyle by God's grace.
Et le problème, c'était que Corinthe influençait plus l'Église que l'Église n'influençait Corinthe.
And the problem was that Corinth influenced the church more than the church influenced Corinth.
Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Does that remind you of anything?
Nous vivons dans une époque où l'influence de l'Église est si limitée.
We live in a time when the influence of the church is very limited.
Trop souvent, nos activités, nos loisirs, nos intérêts sont calqués sur ceux du monde.
Often, too often, our interests, our activities, our hobbies are too strongly anchored in the influences of the world.
Là aussi, nous allons voir que c'est parce que nous avons perdu de vue la centralité de Jésus-Christ dans notre vie.
And we'll see it's because we've lost the point of view of the centrality of Jesus Christ in our lives.
Nous allons commencer donc en lisant les versets 1 à 9 de 1 Corinthiens 1.
So we'll begin by reading verses 1 through 9 in chapter 1 of 1 Corinthians.
Page 186 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament, la deuxième partie. Je lis dans la version à la colombe. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus, de ce que vous avez été enrichi en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous avez remarqué, Paul mentionne le nom de Jésus-Christ ou parle de lui 10 fois en 9 versets.
You may have noticed that Paul mentions the name of Jesus or speaks of him 10 times in these verses.
Paul disait que pour lui la vie c'était Christ, que mourir lui était un gain.
Paul used to say that for him to live was Jesus Christ and to die was gain.
Et en s'adressant aux Colossiens, il leur parlait de Jésus-Christ, votre vie.
And when he wrote to the Colossians, he wrote of Jesus Christ, your life.
Est-ce que Jésus est votre vie?
Is Jesus your life?
Ou est-ce qu'il est quelque chose à côté, enfin quelque chose qui fait partie de votre vie?
Or is he rather something that's on the side that is a part of your life?
Ou est-ce qu'il est le centre de votre vie?
Or is he the center of your life?
J'ai rencontré à la faculté des lettres un professeur il y a quelques semaines.
Pierre met a professor at the faculty de lettres a couple of weeks ago.
Qui se dit protestant.
Who claim to be Protestant.
Et il parlait d'un ami commun, d'un pasteur commun, d'un pasteur.
Speaking of a common friend, a pastor, they both knew.
Un responsable d'église.
Who is responsible in one of the churches.
Et Il a fait sans savoir le plus beau compliment qu'il pouvait faire à cet homme.
And without knowing, he made one of the highest compliments.
En me disant
by saying to Pierre,
qu'il aimait bien cet ami,
that he liked this friend,
mais qu'avec lui on ne parlait que de Jésus-Christ.
But when you were with him, you only speak about Jesus Christ.
Il a dit, et cet homme disait, moi j'ai ma foi, c'est une part importante de ma vie, mais il y a d'autres choses. Et peut-être aussi que nous devons nous demander, est-ce que dans notre vie, il y a d'autres choses? Alors ne me côté pas en disant qu'on doit, on doit être enfermé en train de dire Jésus et tout. Non.
Don't misunderstand. We understand, Pierre. We're not supposed to close ourselves in and just be saying Jesus.
Mais est-ce que vous pensez à lui souvent?
But do you think of him often?
Est-ce que vous prenez vos décisions à la lumière de sa volonté?
Do you make your decisions in light of his will?
Est-ce que vous cultivez cette relation intime dont on parle souvent? Est-ce que vous pourriez dire Jésus-Christ est ma vie?
Can you say, Jesus Christ is my life?
Ce serait formidable parce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à votre vie. Appelé se décrit comme appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Sostène.
Paul says that he is called as an apostle of Jesus Christ by the will of God and Sosthenes, his brother.
L'expression appelé à être apôtre devrait plus justement être traduit appelé apôtre du Christ Jésus.
And where he says called as an apostle, it should be called apostle.
Encore une fois, c'est le genre de passage, si on lit sans avoir un arrière-plan du sens de la lettre.
Again, this is a passage that if we read it without any background understanding of the sense or direction of the letter,
on lit en se disant, oh là là, toutes ces formules de politesse, c'est barbant.
We begin by thinking, oh, all these polite ways of addressing each other is just a formula, they're boring.
Paul s'apprête à les reprendre sévèrement.
And Paul is ready to reprimand them severely.
Et d'entrée, il veut établir son autorité apostolique.
And from the beginning, he is calling upon his apostolic authority.
Il va les complimenter,
he will compliment them,
leur dire qu'ils sont toujours de vrais chrétiens,
and confirm that they are true Christians,
avant d'attaquer les vrais problèmes.
Before attacking the real problems.
Mais déjà, on mettait en cause à Corinthe son autorité d'apôtre.
But already in Corinth, they were questioning his authority as an apostle.
Certains disaient c'est un faux apôtre, il ne faisait pas parmi des 12 apôtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fallait pour être appelé apôtre? Il y avait généralement, on estime généralement qu'il y avait trois qualifications qui faisaient qu'un homme pouvait être appelé un apôtre. Il fallait avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Lorsqu'ils vont choisir Matthias pour succéder à Judas,
Matthias.
Dans Acte 1,
in Acts 1,
on sait qu'ils tirèrent au sort, que le sort tomba sur Matthias. Versets 21 et 22, il disait avant, parmi ceux qui nous ont, que quelqu'un le succède à Judas, qui remplace Judas, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait venir avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection.
In verses 21 and 22, it says that it is necessary that of the men who accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning with the baptism of John until the day that he was taken up, one of these should become a witness with us of his resurrection.
Est-ce que Paul avait vu Jésus-Christ ressuscité?
Did Paul see Jesus Christ resurrected.
Oui, bien sûr, sur le chemin de Damas dans Acte 9.
Yes, of course, on the road to Damascus in Acts 9.
Cette lumière qu'il avait fait tomber, qu'il avait ébloui, c'était Jésus-Christ ressuscité, à qui il avait parlé.
This light that overwhelmed him and caused him to fall down was Jesus Christ who spoke to him.
Il fallait entre autres avoir des dons de miracles.
And amongst other things, there had to be a gift of miracles.
Est-ce que Paul avait des dons de miracles?
Did Paul have the gift of miracles?
Oui.
Yes.
Acte 14 notamment nous dit que il se produisait des signes et des prodiges aux mains de Paul et Barnabas.
In Acts 14 it says that signs and wonders were produced at the hands of Paul and Barnabas.
Il fallait donc avoir vu Jésus-Christ, avoir des dons de miracles, et la troisième chose nécessaire, c'était d'avoir été choisi par Dieu.
So they had to have seen Jesus Christ resurrected, have the gift of miracles, and then to have been chosen
by Jesus,
par
God, par Dieu. Vous vous souvenez que la nuit avant de choisir ses disciples, Jésus avait passé la nuit dans la prière. Et il les avait choisis. Il en avait choisi 12. Et dans Acte 9, lorsque Dieu parle à Ananias qui doit aller parler à Paul, verset 15, il est dit: va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël.
The Lord says to Ananias, go, for he is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel.
Donc Paul avait toutes les raisons de se considérer comme un apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Un apôtre, c'était quelqu'un qui était envoyé en mission.
An apostle was someone sent on a mission.
C'était comme un ambassadeur envoyé.
He was sent as an ambassador.
Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on décide de soi-même.
And of course, it's not something that we decide ourselves.
Je ne veux pas partir dans un pays étranger et dire ça y est, c'est moi l'ambassadeur de la France. Je dois d'abord être accrédité par le gouvernement français.
First of all, I have to be accredited by the French government.
Je dois être choisi.
I need to be chosen.
Mais vous savez ce que Jésus nous disait dans Jean 15,
but you remember what Jesus said in John 15?
S'adressant à ceux qui croient en lui.
He was speaking to those who believe in him.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16.
In John 15, 16, he says, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, much fruit.
Et donc, si vous croyez en lui,
and so, if you believe in him,
vous pouvez dire béni, choisi par Dieu, par Jésus-Christ.
You can say that you are blessed, chosen by Jesus.
Je voulais dire béni ou Madeleine ou Tonio.
Benny could say I'm chosen by God. Tonio could say I'm chosen by God.
Si vous êtes à lui, vous êtes choisi par lui.
If you are his, you have been chosen by him.
Et si vous vous dites mais c'est pas juste, moi je suis pas choisi.
And you could say that's not fair, I haven't been chosen.
La réponse est simple, si ça vous dit, venez à lui.
The answer is simple, if that's what you desire, come to him.
C'est le paradoxe du libre choix de l'homme et de la connaissance de Dieu.
It's the paradox of man's free choice and God's responsibility.
Il est choisi par la volonté de Dieu.
So Paul is chosen by the will of God.
Nous sommes des croyants appelés à des témoins, pas des apôtres, mais des témoins.
And we are believers chosen to be witnesses.
À notre façon, nous pouvons être des ambassadeurs.
And in another way, we can be ambassadors.
C'est la volonté de Dieu.
It's the will of God.
Et la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose à rechercher dans votre vie. Parce que ce qui va donner du sens, c'est de la richesse, de la plénitude à votre vie. Et souvent, lorsque nous avons des décisions à prendre, on se dit, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? On a le sentiment que peut-être Dieu va s'amuser à nous cacher cette volonté de ça pour notre vie. Mais nous avons l'assurance que si nous vivons en communion avec lui, si nous sommes sincèrement à la recherche de sa volonté, si nous obéissons à ce qu'il nous a déjà révélé, alors il va nous révéler sa volonté. Il est question, vous avez peut-être remarqué, du frère Sosthène. Qui c'est celui-là ? On pense que c'est lui qui devait écrire la lettre sous la dictée de Paul, lui-même sous la direction du Saint-Esprit. Et là aussi, dans le livre des Actes, au chapitre 18, dont nous avons parlé tout à l'heure, on voit que Sosthène était celui qui avait remplacé Crispus, qui s'était converti à la foi chrétienne. Et les Juifs en colère contre Paul avaient essayé de le faire arrêter par les autorités. Mais le proconsul Gallion avait dit qu'il n'y avait pas de raison vraiment de l'inculper. Et verset 17 nous dit, parlant des Juifs, que tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. Ils étaient en colère contre lui parce qu'ils n'arrivaient pas à faire cesser la prédication de Paul et l'avancée de l'Évangile. Mais on a tout lieu de penser que ce Sosthène, c'est le même qui est devenu maintenant le frère Sosthène. Et c'est pour ça qu'il le mentionne tout de suite lorsqu'il leur écrit. Il leur dit d'ailleurs, vous avez le bonjour de Sosthène. Et ça, c'est aussi un bon rappel pour nous qu'il n'y a pas de personne trop difficile à toucher pour le Seigneur. Il n'y a pas de personnes indésirables pour le Seigneur. Il y a une très belle expression latine qu'on utilise encore en français. On pourrait dire, il n'y a pas de persona non grata. Ce qui veut dire personne indésirable. Personne qu'on ne peut pas recevoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça utilise le mot grâce, persona non grata. Parce que c'est justement par la grâce de Dieu que Dieu peut toucher, par sa grâce que Dieu peut toucher tout homme. Il n'y a pas de mission impossible pour Dieu. Paul était le meilleur exemple. Il était le plus farouche adversaire de la foi chrétienne, il est devenu le plus célèbre défenseur de la foi chrétienne.
ferocious Christian opponent to being the most well-known.
Nous le savons.
We know.
Mais des fois, nous pensons que cet homme qui est un chef religieux musulman, il n'y a aucune chance pour qu'il connaisse Jésus-Christ.
Sometimes we might be thinking that a Muslim religious leader would have no chance of being touched by Jesus Christ.
Ou nous pensons que cette star de cinéma qui vit dans l'immoralité jamais ne pourrait être touchée par Jésus-Christ.
Or that a movie star living in great immorality wouldn't have a chance of being touched by Jesus.
Et puis on apprend que cet ancien imam s'est converti à la foi.
Or later we'll hear that a previous imam was converted to the faith.
On apprend que Jane Fonda s'est convertie à la foi chrétienne.
Or Jane Fonda, a celebrity, has converted to Christianity.
Ça doit nous encourager qu'il n'y a pas de beau-père trop difficile.
And that should encourage us that there's no one that's too difficult.
Il n'y a pas de groupe humain trop difficile.
There's not a group, a human group that's too difficult.
La volonté de Dieu est suprême.
God's will is supreme.
À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.
Verse 2, to the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours.
L'église de Dieu nous dépasse.
The church of God goes beyond us.
C'est l'ensemble de tous les croyants.
It's the whole group of believers.
Elle se manifeste ici à Corinthe.
It's showing itself here at Corinth.
À Nice, elle est manifestée par plusieurs églises locales.
It manifests itself here in Nice in several local churches.
Il y a une secte qui s'appelle l'église de Dieu à telle ville.
There is a cult that is known as the Church of God in each city.
Et c'est une arrogance et un mensonge que de faire croire que nous sommes les seuls à être les vrais chrétiens dans une ville.
And it's arrogance and a lie to ever assume or teach that we are the only church of God in each city.
Il écrit à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, qui sont appelés à être saints.
And he's writing to those sanctified in Christ Jesus and calls them saints.
Sanctifié, nous l'avons déjà dit mercredi dernier, c'est être mis à part pour un usage précis.
Last Wednesday, we defined sanctified as being set apart for Jesus.
Un exemple trivial peut nous aider.
A trivial example could help us.
À la maison, Nancy désigne une éponge pour laver la vaisselle.
At home, I have a special sponge that's just for dishes.
Sous l'évier, il y a une éponge pour essuyer les taches par terre.
Under the sink, there are sponges for washing things on the floor.
Si jamais je prends l'éponge pour laver la vaisselle, pour ramasser quelque chose par terre,
and if ever Pierre takes the sponge from the sink to wipe up something on the floor,
j'entends parler de la sanctification d'éponge.
He hears about the sanctified sponge.
Il y a une chose pour un usage précis.
There are things that are for specific uses.
Sanctifié dans le sens de Paul, ça veut dire être mis à part pour le service de Dieu. Je suis là pas là pour être utilisé pour un autre usage. Bob Dylan disait que nous allons servir quelqu'un.
Bob Dylan said that we will serve someone.
Que ce soit le diable ou que ce soit Dieu, mais nous allons servir quelqu'un.
Whether it be the devil or God, you will serve someone.
Si nous sommes croyants, nous sommes automatiquement saints.
If we are believers, we are automatically saints.
C'est pas parce que nous avons soudain une stature morale et spirituelle qui dépasse celle de nos contemporains.
It's not because all of a sudden we have a moral or spiritual status that is above our contemporaries.
Mais c'est parce que Dieu a dit, ça c'est l'éponge pour laver la vaisselle.
God said that is the sponge to wash the dishes.
Dans le sens où nous sommes, je me pardonne de cette analogie qui fait grincer quelques-uns, que nous sommes séparés pour le service de Dieu.
We are set apart for God's service.
Encore une fois, c'est important de réaliser qu'ils avaient reçu le Seigneur dans leur cœur.
Again, it's important to realize that they have received the Lord into their heart.
Ils avaient cru.
They believed.
Ils étaient considérés comme justes par Dieu.
And they have been considered righteous by God.
Et en ce sens, ils étaient saints.
And in this sense, they were saints.
Mais il fallait que cette sanctification de position,
but this position of sanctification
se manifeste par un comportement extérieur.
Needed to manifest itself by an exterior behavior.
Et c'était leur problème. Ils avaient reçu le Seigneur, mais on ne voyait pas de changement dans leur vie.
And this was their problem. They had received the Lord, but there was no outside visible evidence of their change.
Et donc, Paul ne les attaque pas en leur montrant tous leurs problèmes et leurs péchés d'entrée.
And Paul doesn't attack them from the very beginning, showing them all their problems.
Il leur rappelle d'abord tout ce que Dieu a fait pour eux.
He reminds them, first of all that God did for them.
L'appel,
the call,
leur position en Christ,
their position in Christ,
les ressources que Dieu leur donne.
And the resources God gives them.
Et il leur dit, recevez ces choses et laissez-vous enfin transformer.
And he encourages them to receive these things and let themselves be satisfied.
Puis il parle de grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus.
And he says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus.
Qu'est-ce que c'est que la grâce?
What is grace?
C'est Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas.
It is God giving us what we don't deserve.
Sa justice, ce serait de nous donner ce que nous méritons.
If he were just with us, he would give us what we do.
Comme nous sommes pécheurs, il devrait nous donner la punition.
Because we are sinners, he should punish us.
Sa miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous, ce que nous méritons,
his
cette punition.
Is that he does not give us what we have earned.
Mais la grâce, ça va au-delà.
But grace goes beyond this.
Il nous donne
he gives
ce que nous ne méritons pas.
That which we don't deserve.
Ça dépend de l'amour actif de Dieu, qui ne dépend pas de celui qui reçoit, mais de celui qui donne. Et la paix, c'est la sécurité que Jésus-Christ nous donne.
And peace is the security that God gives us.
Chuck Smith aime bien dire que la grâce et la paix, c'est toujours dans cet ordre.
And Chuck Smith says that grace and peace are always in this order.
On ne peut pas connaître la paix de Dieu tant qu'on n'a pas reçu la grâce de Dieu.
We can't know the peace of God until we've received his grace.
Et leur problème, quelque part, nous le verrons plus loin, ce n'était pas un problème de légalisme. Ils avaient beaucoup de choses justes.
They did have many things correct.
Ils n'avaient pas des rituels en erreur.
They did, their rituals weren't in error,
comme les Colossiens.
As the Colossians.
Ils ne se disputaient pas pour imposer la circoncision comme les Galates.
They weren't disputing to impose circumcision as the Galatians did.
Ils ne se reposaient pas sur des œuvres vaines comme dans les Philippiens, comme chez les Philippiens. Leur problème, c'est qu'ils avaient accepté la grâce de Dieu.
Their problem was they had received the grace of God,
mais ils l'avaient reçue d'une façon erronée,
but they received it in a false way,
en pensant que cette grâce leur permettait de vivre n'importe comment.
Thinking that this grace permitted them to live any lifestyle.
Leur problème, c'était la liberté, la licence à outrance.
Their problem was liberty.
To the max, license.
Oh, licentiousness to the extreme.
Il leur dit, il leur rappelle verset 5 qu'ils sont riches en Christ. De toute parole, toute chose, toute parole, toute connaissance.
In verse 5 it tells us they were rich in Christ in all speech and all knowledge.
Nous sommes riches en Christ de toutes les bénédictions spirituelles.
And we too are are rich in Christ in all his spiritual blessings.
Toutes choses, la parole, il connaissait la parole.
All things, they knew the word.
Ils avaient une grande connaissance.
They had great knowledge.
Parce que le témoignage de Christ avait été fermement établi en vous, je crois que la meilleure traduction ce serait parmi vous. Et verset 7, il dit, ainsi donc, il ne vous manque aucun don. Les dons, c'est ce qui en grec s'appelle les charismata.
In Greek, the word for gift is charismata.
Les cadeaux de Dieu.
The gifts of God.
Les dons spirituels.
Spiritual gifts.
Et là, c'est intéressant de noter que tous les dons étaient présents dans l'Église. Tous les dons étaient en action. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent des églises aujourd'hui prennent l'exemple de l'église de Corinthe comme modèle d'église. Ces dons étaient mal utilisés, d'où la lettre.
But these gifts were being incorrectly, poorly used, and that's why the letter was written.
D'où les chapitres 12 à 14.
And that's why there were chapters 12 through 14.
Parce que ce qui frappait Paul, c'est qu'ils avaient tous les dons.
Because what struck Paul was they had all the gifts.
Et pourtant, ils étaient d'une carnalité extrême.
But they were living in incredible carnality.
Et je crois qu'il est très important pour nous de clarifier les idées. Et de ne pas croire que l'exercice des dons est nécessairement synonyme d'avancement spirituel. Souvent ces dons, surtout les plus spectaculaires, les dons de guérison, les dons de langue par exemple, peuvent être manipulés avec un esprit charnel. Parce que bien souvent, ils attirent l'attention sur la personne qui les exerce. Peut-être que vous allez voir des gens qui vont parler en langue, mais qui n'auront pas une vie très, très spirituelle.
You may see people exercising speaking in tongues, but whose lives are not a spiritual example.
Donc les dons spirituels sont une très bonne chose.
Spiritual gifts are a very good thing.
Je crois aux dons spirituels bibliques.
I believe in the spiritual gifts.
Qui sont gifts. Ils sont valables pour aujourd'hui.
They are valid for today.
Qu'il faut les rechercher de tout son cœur.
And we should seek them with all our hearts.
Et les dons les meilleurs,
and the best gifts,
c'est ceux qui correspondent à la mission auquel Dieu nous appelle. Mais nous devons exercer de la prudence avec les dons. S'ils attirent l'attention sur celui qui les exerce, alors là, tout de suite, une réserve.
If they are drawing attention to the one exercising them, right away we should use caution.
Et je remercie Dieu pour les dons qu'il nous donne.
And I thank God for the gifts he gives us.
Pour la présence et la réalité de l'Esprit Saint parmi nous.
For the presence and reality of the Holy Spirit amongst us.
Sans lui, l'Église ne peut pas grandir.
Without him, the church would not grow.
Ils attendaient la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'était le retour de Christ, sa révélation. Le mot est apocalypse en grec. Il vous affermira aussi jusqu'à la verset 8 pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, irréprochable, ça ne veut pas dire parfait.
Blameless does not mean perfect,
sans faute.
Without fault.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas traîner en justice, qu'on ne peut pas citer en justice.
It means that we can't be held in a legal court.
Parce que nous avons été déclarés justes par notre foi.
Because we have been declared just or righteous through our faith.
Et Dieu continue une œuvre pour que cette justification, cette déclaration se transforme par une réalité dans notre vie.
And God continues a work so that this righteousness, this justification becomes a reality in our lives.
Paul disait, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'achèvera jusqu'au jour du Christ Jésus.
Paul tells us that he is convinced that he who began the work in us will continue it until the day of Jesus Christ.
Et encore une fois, ils attendaient l'attente imminente de son retour.
And again, they are awaiting the imminent return of Jesus Christ.
Verset 9, c'est peut-être la clé de l'épître.
And verse 9 is probably the key to the epistle.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
God is faithful, through whom you were called into fellowship with his Son, Jesus Christ, our Lord.
Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu merci.
God is faithful, God is faithful.
Parce que moi je ne suis pas fidèle.
Because I'm not faithful.
Les hommes ne sont pas fidèles.
Men are not faithful.
Mais lui est fidèle.
But he
Amen.
Is faithful.
Nous pouvons bâtir notre vie sur ces promesses. Encore une fois, il nous appelle à la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot communion, c'est le mot koinonia en grec. C'est cette relation intime d'amitié, de partenariat. C'est-à-dire que ses richesses sont mes richesses.
The riches are
his riches are mine.
His riches are my riches.
Ça, c'est formidable.
That's wonderful.
Il paraît qu'il y a une nouvelle expression pour dire ça. On dit plus c'est rad ou c'est la bombe. On va dire, nouvelle expression, c'est pleine pêche.
There's a new expression to communicate this idea. Do you want to do that?
It's full pitch.
It's full pitch.
Ce qui est moins intéressant des fois, c'est de réaliser que si on est partenaire, mes richesses sont ses richesses.
And what's interesting is that if we are partners, his riches are my riches.
C'est-à-dire que mes ressources, aussi petites soient-elles, elles lui appartiennent.
And
my resources?
My resources, as little as they are, also belong to him.
Mon temps,
my time,
mes talents,
my talent,
ma jeunesse,
my youth,
ma vieillesse,
my age,
mes idées,
my ideas,
mon argent,
my money,
mes enfants.
My children.
La bonne nouvelle, c'est que devinez qui profite le plus de ça.